Alors hier, Pierre, on a beaucoup parlé de Emma Bovary, de Madame Bovary, de Flaubert, et d'un personnage auquel vous êtes très attaché, qui est Binet. Et vous nous avez fait une démonstration extraordinaire avec votre thésette sur Binet. Et c'est bien que vous ayez parlé comme ça de Binet, parce que, je ne sais pas, quelquefois, Binet me fait penser un peu à une espèce de diable manipulateur, comme si lui étant un peu Flaubert, il y avait une manipulation de son personnage. Et j'ai bien envie de parler avec vous du diable un petit peu, cette espèce d'attirance pour la sorcellerie, pour des choses très insolites.
Oui, mais en fait, ça c'est du surréalisme le plus pur d'ailleurs, la sorcellerie. Ce qui m'a intéressé, ça m'a intéressé finalement par hasard, parce que j'ai trouvé comme ça, quand j'avais 20 ans, des livres d'un merveilleux curé de campagne qui s'appelle Jean-Baptiste Thiers et qui a toute sa vie militer contre les superstitions, surtout les superstitions qui concernent les sacrements de l'Église. Et la définition de la superstition pour Thiers, c'est une définition classique en théologie. La superstition, c'est l'acte par lequel on se lie sans le savoir, même sans le savoir, avec le diable, pour obtenir quelque chose d'une manière qui n'est pas naturelle. Et donc, il faut se méfier d'être superstitieux, parce que c'est toujours dangereux de faire un pacte avec le diable. Il donne un exemple, Jean-Baptiste Thiers, qui est assez beau, d'ailleurs, les paysans, c'est un contemporain de Descartes. Les paysans, quand leur cheval était malade, le faisaient souvent tourner trois tours autour d'une certaine pierre qui était dans la forêt d'à côté, le champeron. Et alors, il raisonne et dit, est-ce que c'était la pierre qui guérit? Est-ce que ce sont les trois tours qui guérissent? Enfin, bon. De toute façon, cette pratique est effectivement superstitieuse. Alors, l'idée que la superstition, c'est un pacte avec le démon, c'est que tout ce qui n'est pas naturel est de l'ordre du diable. Ça, c'est aussi simple que ça.
Et
à partir
si
du moment
simple.
Où on demande quelque chose qui n'est pas naturel d'avoir lieu, et si cette chose a lieu d'une manière non naturelle, c'est forcément le diable qui en est responsable. Je veux dire que j'y pense pas tous les jours.
Non,
pas...
je pense que vous n'y pensez pas tous les jours, c'est vrai. Mais quand même, quand vous dites par exemple « Nous avons perdu la curiosité de savoir qui parle en nous
oui. »,
moi je sais pas, ça me fait vraiment penser à une espèce de malin, d'esprit comme ça qui serait... On revient un peu à la voix dont on parlait au
Mais là,
début.
On
là.
Revient un peu au soliloque encore une
Oui.
fois, car il faut bien, si quelqu'un parle en nous, il faut bien que ce soit quelqu'un qui parle. Alors qui est-ce? Si on répond moi, ça ne veut rien dire. C'est vous qui parlez en agitant vos lèvres, mais à part ça, de la part de qui vous parlez, quand vous parlez, c'est ça le problème.
Lisez-nous un petit passage là du parloir où il y a une affaire avec la voix, justement.
René compte en descendant les marches de l'escalier. L'escalier terminé, René n'a plus rien à compter. Il se laisse reprendre par lui-même. On ne peut pas, se dit-il, passer son temps à se dire de se taire. Je parle, se dit René, de cette voix qui est la mienne quand je ne parle pas. Qui bavarde sans cesse? Que faire pour qu'elle se taise comme elle se tait quand je cause avec quelqu'un? Quand j'écris, ça va, elle me fout la paix, cette voix. Elle fait le cheval et moi le cavalier. Mais le repos, bon Dieu, le repos. Bah oui, c'est toujours le même thème. Mais là, je ne sais pas si c'est le bon Dieu ou le diable. Je ne connais pas assez René pour vous le dire.
C'est trop facile. Vous ne vous sortirez pas comme ça, Pierre.
Hein?
Vous ne vous en sortirez pas comme ça,
non,
Pierre.
Non, non, je n'ai pas envie d'en sortir, d'ailleurs.
Dieu ou diable? En tout cas, vous parlez dans votre dernier livre, Autobiographie d'un lecteur, toujours, de Claude Gagnebé.
Oui.
C'est quelqu'un qui s'intéresse aussi un petit peu à tout ce qui est...
Ah bah oui, bien sûr. Oui.
de l'ordre de la sorcellerie. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas un peu de sorcellerie dans un livre qui vous est très cher aussi? C'est Un ivrogne dans la brousse, d'Amos Tutiola.
Oh, est-ce que c'est de la sorcellerie, ça? Oui, peut-être, oui.
C'est quand même pas courant qu'un type doive restituer son corps entier en gardant sa tête?
C'est parce qu'il est honnête. Il a emprunté tous ses membres aux gens de son village. Alors, il est honnête. S'il n'était pas honnête, il les garderait. Mais c'est pas.
Ça me ferait très plaisir que vous parliez un petit peu d'Amos Tutiola, juste un peu par rapport au diable, par exemple. Même si vous n'y voyez aucun rapport.
Non, mais Tutiola est un Nigérian, donc il parle Yoruba. Il a écrit en anglais. Un livre merveilleux, là. Il s'appelle « L'ivrogne dans la brousse ».
Et c'est Queneau qui l'a traduit ?
Que Queneau a traduit dans les années 54, je crois. Oui. C'est un livre très, très impressionnant. Il y a mille histoires et le temps va très vite. Je ne sais pas comment dire. Je ne sais pas ce qui m'intéresse le plus dans ce livre. Je crois que c'est la vitesse des ellipses et le nombre considérable d'événements qui se passent. La scène dont on vient de parler deux secondes est une scène très simple. C'est une fille qui est dans un marché et qui voit un très bel homme et dont elle se dit qu'il est complet, un très bel homme complet. Et elle le suit parce qu'elle le trouve très beau. Bon. Et c'est ce malheureux homme complet qui, en rentrant dans son village, se met à rendre l'épaule gauche à celui qui a prêté son épaule gauche, à l'épaule droite à celui qui a prêté son épaule droite. Et puis, quand il n'a plus que sa tête à lui, il rend sa tête et c'est un spectacle assez terrifiant. Bon. Alors ça, à mon avis... Bon, c'est peut-être de la sorcellerie, mais c'est de la sorcellerie qui n'est pas de chez nous, si je puis dire. Nous, on n'a pas... on a eu, dans notre histoire, on a eu des diables. Il y a des gens qui sont morts en pagaille sur le bûcher pour avoir été accusés de sorcellerie. Hein. C'est quand même des sérieux. Mais toutefois, là... Ça paraît tellement naturel, en tout cas, ce qui se passe chez lui, y compris ce type qui se dévisse, parce que c'est l'histoire d'un type qui se dévisse, pareil, ce que je viens de raconter. Là. Bon. Ça paraît naturel, ça paraît pas du tout...
C'est encore l'histoire du vrai
Démoniaque, hein.
C'est encore comme l'histoire du vrai, du possible, du naturel.
Oui, je sais bien que c'est pas possible, mais dans une certaine... par rapport à une certaine culture, c'est, si vous voulez, je ne sais pas comment dire, il faudrait trouver un exemple.
Il faudrait trouver un mot qui n'existe pas, comme vous adorez le faire.
Non, ce n'est pas un mot qui n'existe pas qu'il faudrait trouver. Il faudrait trouver, bon, par exemple, je ne connais rien en bourse. Bon, mais si je connaissais quelque chose en bourse, il y a des mots, des actions que font les gens qui s'intéressent à la bourse, qui pourrait servir d'exemple à ça. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que à l'intérieur d'un monde comme la bourse, par exemple, qui ne ressemble guère à une forêt du Nigeria, bien entendu, on peut trouver certainement des actions qui ont pédagogiquement ont un sens pour expliquer à un gosse, je sais pas quoi. Ça n'a pas d'importance si que le nombre pair est aussi bien que le nombre impair, par exemple. Bon, on peut prendre des exemples à la bourse aussi bien qu'ailleurs. Bon. Je veux dire que c'est pas ce qui arrive dans les livres de Tutiola ne doit pas être pour des gens du Nigeria qui parlent, pour les Yoruba, ça ne doit pas être exotique. Et à mon avis, nous, quand on le lit, il faut qu'on s'applique à ne pas trouver ça exotique, mais relativement naturel, il me semble. C'est ça que je veux dire.
Dans Autobiographie d'un lecteur, vous dites, en parlant de ce livre de Tutuola, je l'ai souvent pris avec moi. Il suffit d'en lire quelques pages, quelques lignes même. Bref, il suffit de l'ouvrir le soir pour mieux s'étonner de ce qu'on a vu ou entendu dans la journée.
Oui.
Donc vous en avez besoin de ce livre, enfin, en quelque sorte.
Oui. Oui,
ça vous lave le regard ?
Oui, oui, oui. Ça rappelle quand même qu'on n'est pas forcé de... Enfin, qu'on est comme ça, nous, parce qu'on a été dans cette partie du monde, mais qu'il y a d'autres façons de s'exprimer et d'autres façons de raconter des choses.
Bon, on a fait un détour par Tutuola, parce que je voulais qu'on parle du diable. Toujours dans l'autobiographie, vous dites « De nos jours, le diable est mort, qu'il remplace ». Quand même, vous n'êtes vous pas complètement indifférent à cette absence-présence.
Oui. Non, je parle d'un type là qui dont la vie m'a impressionné, qui s'appelle Goffredi, qui a été brûlé justement. Bon. C'était un prêtre et il y a une Ursuline. Les Ursulines étaient très actives à ce moment-là et elles donnaient facilement les gens au bûcher. C'est pas loin de Loudun tout ça. Bon. Et elle parle des conversations. Intime, et elle rejette sur ses conversations intimes le sort en quelque sorte que lui a jeté Goffredi. Et quand je pense au démon, quand je cite le démon, là je pense que c'est la parole simplement, on va dire. Enfin, je sous-entends que c'est la parole. Et encore que Goffredi était un type. C'est pas Don Juan, Goffredi. Elle précise, l'Ursuline, qu'il se servait d'une noix. Il avait une noix. Et la noix, qui ressemble bien à une tête quand même, et à un crâne. Son pouvoir était dans cette noix. Le problème, c'est d'arriver à mettre un pouvoir quelque part. Sorte de faire une boule de pouvoir avec
encore le pouvoir, oui.
Faire une boule de pouvoir avec ses doigts, avec sa main, et c'est un peu ce que faisait Goffredi. Enfin, il y a cette boule, ça c'était une noix, quoi.
Ce que fait, cette boule, noix, tête, ça me rappelle, et le pouvoir, donc ça me rappelle ce que fait la tante,
oui, la tante de Brossard, fait des têtes comme ça tout le temps dans ses poches. Ce sont des têtes qui ne sont pas destinées à rendre service aux gens, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce sont des têtes. Ça, je ne crois pas qu'il y ait des têtes nocives, mais je crois qu'il y a des tas de gens qui essaient de faire des têtes nocives. Ça, je crois.
Et puis, j'ai regardé récemment le. Ce qui a été fait par Lina, qui réunit un certain nombre d'entretiens que vous aviez fait pour Lecture pour tous, et notamment celui avec Georges Bataille, où vous lui posez des questions, vous conversez tous les deux autour de la littérature et le mal.
Oui, ben, ça l'intéressait quand même.
Mais vous aussi, ça vous intéressait.
Oui, ça m'intéresse. Oui. Mais le mal...
Parce que vous faisiez un lien entre le malin et la parole. Donc, l'écriture et peut-être la littérature.
Moi, je crois que c'est plutôt la parole, je crois. Là, il faut regarder comment le merveilleux bouquin de Jeanne Favre-Saada sur les mots, je ne sais plus jamais dans quel ordre c'est, les mots, le sort, la mort. C'est la parole, là, c'est pas l'écrit. L'écrit ne peut jouer qu'en étant le substitut de la parole, mais la parole est l'équivalent de la tête. Enfin.
Et ça vous on parlait aussi de la peur et de l'inquiétude. Vous disiez que quand vous étiez petit, vous aviez été un peu élevé pas dans la crainte, mais il y a une notion de culpabilité, non, quand c'est ce que vous dites d'ailleurs à Bataille, mais l'autre fois, quand on parlait tous les deux, vous vous sentiez presque coupable d'écrire des choses qui ne sont pas racontables. Et c'est vrai, on aurait de la peine à résumer le parloir, Brossard et moi. Et c'est drôle parce que vous avez repris une expression de Dubillard que vous interviewez aussi à la même période. Et il parlait de naïves hirondelles. De la même façon que vous, il disait, ce n'est pas racontable. Et puis pourtant, vous avez cet art magnifique qui est de le faire raconter, l'irracontable.
Oui, mais c'est une bonne question. Je ne sais pas où est la réponse, d'ailleurs. Il y a des choses qui ne sont pas racontables, parce que si on en raconte le dessus, si je puis dire... Si on n'en raconte que l'apparence, on n'en raconte que le quart. J'ai très mal parlé tout à l'heure de Tutuola, parce que c'est un peu pour ça que je me suis tué assez rapidement, parce que c'est intolérable de mal parler de quelque chose. Qu'est-ce qui est racontable finalement? Déjà, un accident de voiture, c'est difficile. Regardez les rapports de gendarmerie, c'est très... Il y a beaucoup à dire. Encore là, c'est simple. Un objet, véhicule venant de droite, bon, d'accord. Là, c'est racontable. Mais c'est racontable, c'est la description d'un... C'est comme les gens qui ont vu des soucoupes volantes aussi. C'est racontable, ça. C'est racontable parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est avoir la description d'une soucoupe volante par un type qui n'aurait jamais vu de soucoupe, par exemple. Ça, ce serait intéressant. Parce qu'à partir du moment où on a vu une soucoupe et tout le monde a vu les soucoupes, en effet, les soucoupes, c'est fait pour voler. Enfin, ça va de soi. C'est pas fait pour recevoir une tasse de café. C'est complètement idiot. Je sais pas où je vais avec ça.
On parlait du paracontable, de l'irracontable.
Ah ouais.
Est-ce que le paracontable, c'est lié à la notion de formule ou d'indicible, de réel?
Oui, non, mais l'indicible, c'est autre chose, parce que l'indicible, si on prend le parti de rendre compte justement de l'indicible, fût-ce en racontant quelque chose qui n'a rien à voir avec l'indicible même, bon, on transpose. C'est pas la même chose. Le non-racontable, raconter, c'est un sens très précis quand même. C'est faire supporter un récit à quelqu'un et que ce quelqu'un l'accepte comme récit. Il me semble. C'est pas seulement... Évidemment, si un témoin qui dit « je vais vous raconter ce qui s'est passé », le type lui dit « arrêtez, c'est pas la peine ». Donc, c'est pas... ce que je viens de dire est idiot aussi. Mais il y a quand même un peu de l'idée du récit, c'est l'idée de conte qui est embêtant dans racontable. Bon. Évidemment. Et pourquoi on parle de tout ça là? C'est compliqué. Il faudrait remonter à l'origine et lui tordre le cou, là.
Non, l'origine, si c'est le diable.
Ah, le diable, c'est bien ce que je pensais, oui. Non, mais je ne crois pas, du tout. Je ne vois pas pourquoi je croirais au diable tout seul. Autrement. Je pense que ce qui fait qu'on peut penser au diable de temps en temps, c'est que beaucoup de gens, peut-être moi d'ailleurs même, font comme si le diable existait, je veux dire.
Comme si.
Oui, comme si, en faisant des petites... en ayant des petites superstitions personnelles, je ne sais pas lesquelles, d'ailleurs, en inventant à l'intérieur d'un bouquin des superstitions. C'est évident que les têtes de la tante, par exemple, sont des actes superstitieux, de ma part.
Mais est-ce que si on reprend l'étymologie, par exemple, c'est toujours bête de faire ça, mais parfois c'est utile. Diabole, donc c'est celui qui divise, qui sépare. Est-ce que ce qui sépare dans l'écriture, c'est pas cette voix qui parle, cette autre qui parle, et donc d'une certaine manière, et puis coupable, coupé, séparé, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça dans l'écriture? Parce que, je ne sais pas, à vous lire, on a, même si c'est très drôle, on a quand même le sentiment que parfois c'est un peu coupable.
Qui est coupable? Le texte ou l'auteur?
L'auteur du texte. coupable de donner ces textes-là. C'est ce que vous disiez l'autre fois un petit peu. Qui ça peut intéresser, ça? Tout ce qui paraît de vous, chez Verdier et d'autres. Pourtant, quand on lit, on jubile. Alors pourquoi vous vous sentiriez coupable par rapport au lecteur? C'est le sentiment que j'avais quand on discutait l'autre fois.
Oui. Non, ça, il faut revenir à quelque chose dont on a déjà parlé. C'est la différence que je fais, peut-être à tort, entre les gens qui écrivent pour être crus et les gens qui n'écrivent pas pour être crus. Bon, c'est peut-être effectivement très ambitieux et très pervers d'écrire, de ne pas écrire pour être cru. C'est possible. Simplement, je vous rappelle que je n'aime pas la manipulation, j'aime pas me sentir manipulé, donc je ne cherche pas à prendre du plaisir en manipulant les autres. Donc je crois que pour éviter d'être manipulateur, je me débrouille, il me semble, pour que les trucs que je raconte ne soient pas croyables, pour parler grossièrement. C'est-à-dire que ce n'est croyable que si vraiment on le veut. Alors à ce moment-là, c'est le lecteur prend sa responsabilité, si je puis dire. Enfin, je fais tout, il me semble, pour qu'il ne croie pas ce que je raconte. Ce qui n'est pas une situation très confortable, finalement.
Pour le lecteur.
Pour l'auteur non plus, d'ailleurs, parce que si on parle d'une maison ou d'une fenêtre, il faut mieux considérer que qu'on a parlé d'une fenêtre ou d'une maison et pas de rien. C'est impossible aussi de demander à un lecteur systématiquement de ne pas croire ce qu'on écrit, et c'est impossible de demander à un auteur qui souhaiterait ne pas être cru d'écrire constamment pour ne pas être cru, c'est pas vrai.
D'accord. Mais moi, j'ai envie de jouer avec vous, par exemple. Et j'ai l'impression que vous aimez bien jouer. Vous rêvez d'une partie de cartes, par exemple, et des cartes blanches, admettons. Et j'ai l'impression que les livres, c'est comme un jeu avec le lecteur. On a du plaisir.
Bah oui, c'est un peu... Oui, c'est forcément un peu ça. Mais...
On joue beaucoup à la belote, hein, chez vous.
J'aime bien la belote, oui. C'est assez simple.
Mais alors là où ça va plus, c'est quand les cartes sont blanches. Et ça arrive souvent.
Non, vous faites allusion à une chose qui m'intéresse, c'est que le tableau que nous avons, le joueur de cartes que nous avons la chance d'avoir au musée d'Orsay, est le seul sur les quatre ou les cinq de cette série que Cézanne a peint, dont les cartes soient blanches, qui change quand même curieusement le sens de ce tableau. Il y a des textes très beaux, il y en a un de Rivière, je crois, où il voit tout le sérieux que les deux joueurs mettent à leur jeu, mais ça ne tient plus debout, cette hypothèse, dans la mesure où les cartes sont blanches.
Oui, mais ce qui devient aussi curieux, c'est que vous, dans un texte, vous mettez en scène ces cartes blanches qui, vraisemblablement, sont celles de Cézanne.
Oui, c'est sûr, oui, c'est celles de Cézanne. Il n'y a que lui pour faire des cartes blanches.
Donc il n'y a plus de règles.
Personne n'en a vendu d'autres.
Il y a un peu de désordre là, quand même.
Non, c'est un mystère pour moi. Je voudrais comprendre un jour pourquoi il a fait ça. Je ne sais pas, parce que c'est pas des cartes blanches non peintes. Elles sont pas blanches parce qu'elles seraient non peintes. Il a mis un paquet de blanc sur chacune de ses cartes, donc il a pas voulu que ces cartes soient des cartes, quoi. Ça, c'est très difficile à comprendre.
C'est bien qu'on parle de Cézanne, parce que je voudrais aussi qu'on parle des tableaux, de la peinture. Et j'ai noté comme une absence de musique dans vos textes. La musique est... Vous parlez de Péléas et Mélisande, dans l'autobiographie d'un lecteur, mais on trouve assez peu de musique, oui, de références musicales. En revanche, on trouve énormément d'évocations de peintres. Je pense à Dubuffet, donc toute cette période-là, mais plus ancien aussi. Yabosh. On a commencé cette série d'entretiens. Je parlais de La vie est un village. Vous situez la vie comme une phrase qui se situerait entre deux tableaux. Le premier, si je ne m'abuse, c'est La Nef des Fous. Et le dernier, c'est le tableau d'un de vos personnages, qui est un bateau.
Oui. Enfin, il y a Brossard qui fait des bougies aussi.
Oui, Brossard, les chandeliers, c'est vrai.
Le bateau, il y a les dessins apparaissent quelquefois comme des destins. Bon, le dessin fait sur la falaise, le dessin du bateau fait sur la falaise. Et je sais pas ce qu'il veut dire, mais c'est tout le monde le prend pour un signe et pas pour un bateau, pas pour une figure quand même.
Vous permettez, Pierre, parfois j'aime bien vous appeler maître en souriant. Je trouve que vous êtes quelqu'un de profondément... dont l'éthique est profonde. Et est-ce que vous me permettez de terminer en vous citant cette phrase de Blanchot qui, je trouve, vous va très très bien. La lecture n'est pas une conversation, elle ne discute pas, elle n'interroge pas. Elle ne demande jamais au livre, et à plus forte raison à l'auteur, « Qu'as-tu voulu dire au juste? Quelle vérité m'apportes-tu donc ?» C'est un mouvement lié au désir qui, comme l'inspiration, est un saut infini. Je veux lire ce qui pourtant n'est pas écrit. Et je trouve que ça vous va bien.
Ça serait bien, oui.